France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
C'est achevé hier soir, mercredi, le premier examen du budget 2026 ou projet de loi de finances. Depuis lundi et jusqu'à hier soir, tard dans la nuit, les députés de la Commission des Finances ont étudié les quelques 1500 amendements déposés par le gouvernement. Mais 37 voix contre et 11 pour, la Commission des Finances de l'Assemblée n'a pas adopté la première partie de la copie budgétaire amendée par les députés, alors que les débats commenceront demain dans l'hémicycle. Eh bien, l'Assemblée nationale pourra-t-elle voter un budget? Et quel budget, avec quelle priorité? La justice fiscale ou la réduction de la dette? Deux invités pour en débattre ce soir. François Gérolf, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et par ailleurs professeur associé à Sciences Po. Face à vous, Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, président de la société de conseil Vae Solis Communication. Merci à vous deux d'être présent ce soir dans Question du soir.
Moi, je pense qu'on va terminer sur un budget Frankenstein qui ne satisfera personne. Pour notre part, ce qui nous paraît important, c'était d'augmenter les recettes de l'État en taxant les ultra-riches et les très grandes entreprises. Presque toutes ces amendements sont battus par une alliance RN socle commun. D'un autre côté, effectivement, il y a des articles du gouvernement qui attaquaient à travers les niches sociales, les retraités, les assurés sociaux, qui sont aussi battus. Donc je pense que ce budget va satisfaire personne. Donc je ne vois pas comment il passerait l'épreuve de la séance.
Le député Éric Coquerel, député de la France Insoumise, président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, et on est pris en étau peut-être entre deux sentiments face à ce budget travaillé par l'Assemblée. Premier sentiment qui consiste à se réjouir justement que le Parlement, lieu vivant de la démocratie, construise le budget de l'État, et le sentiment qui consiste à craindre que cette même Assemblée ne parvienne pas à construire un budget cohérent, politique, avec une vision claire. Quel est le sentiment qui prédomine chez vous, François Gérolf, pour commencer?
On est dans une situation extrêmement divisée sur le plan politique. Il y a une absence de diagnostic partagé sur pourquoi la France en est là. Est-ce que c'est parce que l'échec de la politique de l'offre? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez juste? Et donc à partir de là, on a des désaccords sur ce qu'il faut faire par la suite. Et je pense que en plus, évidemment, il y a une élection présidentielle potentiellement à l'horizon en 2027. Donc, les partis d'opposition ont aucun intérêt à endosser un budget qui sera quand même un budget austère, qui sera une liste de mauvaises nouvelles pour un certain nombre de groupes. Et donc, je pense qu'effectivement, la situation du point de vue politique est assez difficile. C'est assez évident. Après, la copie du gouvernement initiale, à mon avis, en fait, c'était assez équilibré de mon point de vue. Et après, ce qu'on a
équilibré
apporte...
de quel point de vue équilibré sur le plan budgétaire
dans le
d'abord
sens où on demandait quand même des efforts aux riches, avait quand même eu toute une discussion notamment sur les holdings. Il y a une taxe sur les holdings d'ailleurs qui fait râler un certain nombre de gens, hein. On demande des efforts aux retraités. Je pense qu'il y a un consensus qui est quand même en train de se former de dire les retraités. Alors il y a des retraités modestes, hein, donc ça va être difficile pour un certain nombre de retraités, mais quand même, on est dans une situation où le niveau de vie moyen des retraités est plus élevé que le niveau de vie de l'ensemble de la population. Enfin bref, sur tout l'ensemble des enjeux, je pense que le gouvernement a essayé de faire la chose la plus consensuelle possible, parce qu'il sait qu'il n'a pas de majorité. Et après, la discussion dans les commissions, effectivement, a fait réapparaître les divisions qui sont très importantes.
Je fais un pas en arrière, Philippe Manière, vous êtes d'accord avec cette idée selon laquelle ce budget Frankenstein, c'est le fruit de notre impossibilité collective à poser un diagnostic sur les dysfonctionnements français ?
Non, je ne crois pas, parce qu'il y a toujours eu divers diagnostics, diverses manières de voir le monde et diverses, à ce titre, envies de modifier le budget et d'y introduire ceci ou cela. La vraie différence cette année, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Parce que d'habitude, vous avez plusieurs visions du monde, mais il y en a une qui domine numériquement, tout simplement. Et donc, elle s'impose. Alors, bien sûr, après, on écoute tout le monde. Il y a un certain nombre d'amendements qui sont concédés à l'opposition. Mais enfin, il y a une majorité qui finit par l'emporter. Et j'allais dire, en plus, voiture balai, pour être bien sûr qu'il y a une majorité. majorité, normalement, il y a le 49-3. Alors là, le gouvernement n'a pas de majorité, mais il n'en a pas, tout simplement. Et puis, par ailleurs, il a dit explicitement qu'il renonçait à l'usage du 49-3. Donc, c'est effectivement à la fois à la foire d'empoigne, la foire aux idées. Enfin, c'est tout le monde met sur la table ce qu'il a envie de dire. Plutôt, d'ailleurs, pour prendre à témoin l'opinion qu'il est favorable à tel ou tel groupe social, comme le disait très justement François, que pour faire avancer le schmilblick. Donc, pour répondre à votre question liminaire, à mon avis, la probabilité qu'on finisse sur un budget voté n'est pas très élevée. Et si on finit sur un budget voté, la probabilité qu'il soit Frankenstein est à peu près égale à 1. C'est-à-dire que c'est à peu près une certitude. Donc, il n'y aura pas de ligne dans ce budget. Moi, ma dernière espérance, parce que tout ce que je viens de dire est quand même assez démoralisant, c'est qu'il n'y ait pas de folie. Et là-dessus, j'ai encore de nombreuses craintes. On y viendra peut-être.
Il faut peut-être rappeler ce qu'est un budget. Un budget, c'est ce projet de loi de finances, c'est la base du budget de l'État. Ce qu'on exige d'un texte comme celui-ci, c'est d'abord et avant tout qu'il soit clair, qu'il porte une vision politique, qu'il dessine, j'allais dire, l'avenir à venir d'un point de vue budgétaire. François Gérolf, qu'est-ce que serait la grande priorité d'un budget 2026? Alors, je sais que vous n'êtes pas responsable politique, mais tout de même, en tant qu'économiste, quelle est la priorité que vous percevez aujourd'hui?
Bah effectivement, je pense que ce serait bien si le budget était construit à partir d'une vision, mais c'est pas du tout ça l'approche qui est suivie. L'approche qui est suivie est comptable, c'est-à-dire on se dit il y a tant à économiser, on a un objectif en gros 30 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on divise entre les dépenses et les recettes? Même si je pense que ce débat sur dépenses versus recettes, il est assez surfait, parce qu'en fait, quand on diminue les retraites ou qu'on les fiscalise davantage, c'est à peu près la même chose pour les retraités, c'est une perte de pouvoir d'achat. Donc je pense que voilà, faut pas non plus surjouer cet aspect recettes contre dépenses. Mais moi, j'aimerais bien qu'on ait une vision justement économique de où le pays veut aller. Est-ce qu'on veut réindustrialiser, par exemple, on a beaucoup parlé de ça. À quel type de politique de l'offre on veut réfléchir? Est-ce que la politique de l'offre, c'est uniquement celle qu'on a suivie depuis 2017, à savoir une baisse des impôts en fait sur le patrimoine? C'est même pas la baisse des impôts sur le capital, c'est sur les intérêts d'emprunt, les dividendes, la flat tax, l'ISF. Est-ce que c'est ça la bonne politique de l'offre, ou est-ce qu'il faut viser quelque chose de plus directement sur le secteur industriel, peut-être même sur les impôts de production, donc plutôt sur la production en France, par opposition à favoriser les gens qui ont du capital en France, qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, tout ça, je pense, ce sont des questions ouvertes, mais ce sont des questions qui ne sont pas posées actuellement, parce que on se pose la question à l'envers, en se disant, comment on fait pour passer de 5,4% du PIB de déficit ou 5,3% du PIB à 4,7% du PIB, qui est notre engagement vis-à-vis de la Commission européenne. Et du coup, comme on se pose la question d'un point de vue comptable, finalement, on fait juste la somme de différentes mesures, et peu importe de savoir la cohérence entre ces mesures, du moment qu'à la fin, on arrive à la bonne somme.
Philippe Manière, deux questions en une. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec l'idée selon laquelle on doit regretter que la vision de ce budget soit strictement comptable? Et par ailleurs, quelles questions liminaires vous poserez, quelles bonnes questions liminaires vous poseriez pour dessiner un budget?
Non, mais la vision budgétaire, elle est forcément comptable. Parce que, naturellement, il y a derrière tout ça des enjeux politiques considérables. Depuis 1215, on a un vague soupçon que le vote de l'impôt est quand même lié à l'exercice de la démocratie, c'est sûr. Mais, in fine,
les choix
concrètement,
budgétaires sont quand même le fruit de choix politiques.
Non, mais d'accord, mais concrètement, quand on vote le budget, ça finit toujours par des calculs de boutiquiers, par des chiffres, ça peut pas être autre chose. Il s'agit de voter le budget du pays, ça se traduit par des masses d'argent qui sont levées ou pas levées, qui sont distribuées ou pas distribuées. Donc, il y a une dimension comptable qui est irréductible. Maintenant, est-ce que la dimension comptable est excessive dans ces discussions budgétaires? Oui, sans doute. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait des moyens à peu près illimités, ce qui a été le cas pendant les 30 Glorieuses, pour faire simple, et qu'on puisse dessiner des grandes politiques sans tellement tenir compte de ce qu'elles coûtent ou de ce qu'elles rapportent. Mais nous sommes sous très forte contrainte. Alors là, je crois qu'on aura un petit désaccord avec François, parce que je le lis. Mais moi, je pense que la situation de la France en matière de déficit et de dette cumulée est très alarmante, et qu'à ce titre, il est absolument indispensable qu'on ait, entre autres objectifs, mais comme l'un des objectifs principaux pour la discussion de ce budget, l'objectif de réduction de ce déficit budgétaire pour ne pas alimenter la dette, dont on va me dire, je sais bien qu'elle ne coûte pas très cher, mais qui coûte de plus en plus cher, et qui peut nous coûter très cher si un jour Les gens à qui on demande d'avoir la gentillesse de nous prêter leur argent renoncent à nous le prêter ou exigent un taux d'intérêt très élevé pour nous le donner. Parce que tout ça, ça ne concerne pas que l'État. Le niveau des taux d'intérêt, bien sûr, ça serait contrariant pour l'État. Il commence à monter. Au fil du temps, l'État emprunte de plus en plus cher. Mais il n'y a pas que l'État qui emprunte. Il y a aussi, j'allais dire, vous, moi, les entreprises, les ménages. Aujourd'hui, pour faire simple, on emprunte en matière immobilière à 3, 3,5 dans ces eaux-là. Si demain, nos créanciers sont fâchés contre la France parce qu'ils trouvent qu'on ne fait pas assez d'efforts, ça peut partir très très vite à des niveaux très supérieurs. Et si demain, au lieu d'emprunter à 3,5, on emprunte à 6 ou 7 ou 8, bah, ce n'est pas de la théorie. C'est vraiment une capacité à s'émanciper en acquérant sa propriété, en acquérant son logement, qui est retirée aux Français. Donc l'enjeu, il est à mon avis très important, cet enjeu de réduction du déficit et de prise en compte de la charge énorme de la dette.
François Gérolf, réduire le déficit, réduire la dette, priorité des priorités ?
Non mais réduire le déficit, pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'il y a plusieurs manières d'arriver à cet objectif. C'est-à-dire qu'on peut viser d'une manière purement comptable en disant bah, si on augmente les recettes, normalement, on devrait finir par réduire le déficit. Mais ou si on réduit les dépenses pour la version, on va dire, où on réduit les dépenses, bah, on va aussi faire des économies. Mais en fait, historiquement, le déficit, il s'est souvent réduit parce qu'on a réussi à faire plus de croissance que ce qu'on attendait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, en fait, au départ. C'est-à-dire, et les réformes de long terme, les réformes de croissance, c'est des réformes qui n'ont pas forcément d'effet, d'ailleurs, l'an prochain, mais qui peuvent avoir effet, dans 2 ou 3 ans. Et pour autant, il faudrait éviter de s'en priver. Inversement, on peut très bien réduire le déficit à court terme, tout en mettant en danger la croissance de long terme et donc les déficits futurs. Donc même du pur point de vue de la stabilisation de la dette publique et des équilibres comptables, en réalité, le fait de viser purement des objectifs budgétaires peut se révéler contre-productif.
Mais est-ce que c'est pas un vœu pieux, Philippe Manière, d'imaginer qu'on pourra renouer avec des taux de croissance similaires à ceux des 30 glorieuses, même dans quelques années, même en mettant les investissements qu'il faut ?
Pas du tout. Moi, je regardais ce que fait le Portugal, regardais ce qu'a fait l'Espagne, qui d'ailleurs ont consenti des sacrifices pour renouer avec des taux de croissance élevés. Moi, j'étais la semaine dernière...
Ils partent pas du même point de départ, en l'occurrence.
Non, justement, ils sont partis d'une situation extrêmement dégradée et ils ont remonté la pente. Alors, la semaine dernière, moi j'étais à Varsovie, je peux vous dire qu'en Pologne, ils sont, je crois, à la 20e année de croissance à 3 ou 4%. Bah, le pays, il va bien et il n'a pas d'interrogation comptable comme nous, on est obligé d'en avoir. Donc, si vous voulez, moi je suis très sensible à ce que disait François tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est réunir les conditions de la croissance. Oui, mais politique de l'offre, vous l'avez dit vous-même, François, mais ça suppose qu'on ne se préoccupe pas beaucoup de la croissance à court terme, qu'on fasse 0 ou 0,5 cette année, honnêtement, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que le potentiel de croissance annuelle du pays soit celui qu'il y a au Portugal, en Pologne ou qu'on avait nous, il y a 25 ou 30 ans, c'est-à-dire plutôt 3% que 0,4 ou 0,8%, ce qui en fait est l'épaisseur du trait. Et à ce titre, vraiment, je suis désolé, mais les manuels d'économie et les expériences internationales enseignent qu'il n'y a pas 50 façons de faire. Il faut susciter l'initiative, mobiliser les facteurs de production, ça s'appelle le travail et le capital, ça suppose qu'il y ait plus de travail et qu'il y ait plus de capital. C'est pour ça que quand je vois un budget où on nous dit non, il ne faut pas que les gens travaillent 3 mois de plus parce que ça serait un drame social et qu'on nous dit il faut taxer le capital, pardonnez-moi, mais il me semble que c'est absolument contradictoire avec l'idée selon laquelle il faut mieux mobiliser les facteurs de production si on veut plus de production pour avoir plus d'enrichissement, pour avoir plus de recettes fiscales et donc moins de dettes.
François Gérolf, en quelques mots.
Mais ce qui m'inquiète, c'est que vu l'objectif qu'on s'est fixé, à savoir revenir en dessous de 3% de PIB de déficit public d'ici 2029, ça veut dire des efforts de l'ordre de 120 milliards d'euros dans les 4 années qui viennent. Ce qui est absolument énorme, en fait. Oui. Enfin, je veux dire, c'est vraiment
D'autres l'ont fait, François.
D'autres l'ont fait, mais nous, on ne l'a jamais fait.
Parce qu'effectivement, vous disiez qu'il y a plusieurs manières de faire, mais il y a la question fondamentale du rythme de la réduction de ce déficit.
Voilà.
Est-ce que 40 milliards d'euros de réduction chaque année, c'est crédible ?
Moi, je pense que c'est trop rapide. Je pense qu'on ne le fera pas, pour être honnête, mais je pense que c'est trop rapide de se fixer cet objectif. Et puis, moi, ce qui m'inquiète, c'est que même d'un point de vue, on va dire, la politique de l'offre, je pense qu'on va être obligé, si on veut faire cet effort, de mettre à contribution les entreprises, de mettre à contribution les gens qui travaillent, parce qu'en fait, c'est là que l'argent est. Et donc, je pense que, oui, je pense que tout le monde est d'accord pour faire des économies de dépenses publiques, de rendre l'État plus efficace, de rendre l'action publique plus efficace, d'arrêter la gabegie, etc. Mais on ne trouvera pas 120 milliards d'euros sur ça. Je pense que c'est vraiment illusoire de penser qu'on puisse le faire. Et d'ailleurs, depuis 1981, qui est une date un peu fixée par un certain nombre de gens, pour dire que tout a commencé à déraper à partir de ça. En fait, les frais de fonctionnement de l'État, par exemple, et la masse salariale même des fonctionnaires, en réalité, réduit en pourcentage du PIB. Ce qui a augmenté, c'est les dépenses sociales, c'est les dépenses de santé, les dépenses de retraite, qui sont difficiles à diminuer. Il faut quand même reconnaître, parce qu'on a un vieillissement de la population, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés. Donc, je pense que dire on va gagner, enfin on va avoir 120 milliards d'euros, il suffit de voir ce budget. D'ailleurs, dans les 30 milliards d'euros, il y a des augmentations d'impôts qui sont substantielles, y compris sur les entreprises, y compris sur le travail. Et j'ai peur que même d'un point de vue de la politique de l'offre, finalement, ça mette en péril la croissance future.
Vous sembliez hésitant, Philippe Manière, lorsque lorsqu'on nous expliquait que ces 120 milliards étaient introuvables.
Oui, non, mais d'abord, je réagissais à ce que disait François tout à l'heure. Pardon, c'est de la sémantique, mais je trouve que c'est important. C'est-à-dire que François vient de dire, il faudra mettre à contribution les grandes entreprises, les ménages. Et tout à l'heure, quand vous avez entamé l'émission, Quentin, vous avez dit plus de justice fiscale. Enfin, non, un budget de justice fiscale. Vous n'avez même pas dit plus. Mais on fait comme s'il n'y avait pas en France déjà énormément de redistribution, énormément d'impôts. Je rappelle que nous sommes, parfois il y a un pays qui nous double pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, mais depuis très très longtemps, nous sommes les numéro un mondiaux, enfin, dans l'OCDE, de la fiscalité, de la dépense publique et de la redistribution. Si c'était une
on
recette
avoir
qui
une
marchait,
fiscalité forte mais injuste.
Elle est très progressive chez nous. Donc elle est, d'ailleurs, j'ai lu sous la plume de François Gérolf il y a très peu de temps un papier, je crois, dans l'Express où vous disiez qu'on était un pays de très grande redistribution. Oui. Donc on voit bien que on peut toujours en faire plus, mais ça me fait rigoler, c'est un peu comme si on disait à un alcoolique, écoute, prends donc un verre de whisky, ça ira mieux. On a sur tous ces sujets-là des records mondiaux et on nous dit que ça serait mieux d'en faire plus. Non, il faut probablement changer ça.
Non, mais si, François Gérol. Si je peux me permettre, je pense que je suis en train de dire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va devoir justement continuer à augmenter les impôts, en particulier sur les plus riches, sur les multinationales, sur les entreprises, etc., qui sont déjà effectivement fortement imposées. Après, moi, je pense que c'est souhaitable, mais c'est vrai que le pays est très redistributif, il faut le reconnaître. Et donc, on va être obligé de le faire. Et donc, j'ai peur que ça finisse effectivement par poser un problème, y compris sur la croissance. Et donc, je pense que même d'un point de vue, on va dire, pour le schématiser de droite, le fait de réduire les déficits aussi rapidement, à mon avis, ça pose question. Et sans parler des entreprises, par exemple, un exemple très concret, la compétitivité des entreprises actuellement en France est mise en péril par le fait que le prix de l'énergie est très supérieur à ce qu'il est aux États-Unis. Bon, les États-Unis choisissent de subventionner même encore plus leurs entreprises pour leur donner un prix de l'énergie beaucoup plus abordable et en fait leur donner des aides d'État. En Europe, on ne réfléchit pas au fait que on est en train de perdre la bataille de la compétitivité. Donc même d'un point de vue, si vous voulez, de la politique de l'offre ou de droite, on pourrait dire de manière simple, le fait de vouloir réduire les déficits aussi rapidement va nous mettre en désavantage compétitif vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Ouais. Et je pense qu'on devrait se poser cette question.
En miroir, Philippe Manière, sur cette réduction de la dépense, là aussi, c'est toujours le serpent de mer. Que faut-il réduire? Quel choix faut-il faire en matière de réduction de la dépense publique? Quelle politique publique faut-il non pas sacrifier, mais du moins minorer?
C'est la bonne question, à mon avis. Alors, moi, je suis très sensible à ce que disait à l'instant François Gérolf. C'est-à-dire que, oui, il y a une menace sur la politique de l'offre si on augmente les impôts et qu'on en fait trop sur la réduction de la dépense publique. Ça, c'est certain. Mais il me semble que la réponse, elle a été difficile à accoucher. Mais le Parlement, la nation, fût-ce dans la douleur, en avait accouché, c'est de mobiliser plus de travail. Revenir sur la réforme des retraites, c'est pour moi une absolue folie. C'est-à-dire que je rappelle quand même la réforme de 2023 sur laquelle 100 guéos ont été versés, c'était demander à 5 cohortes, si je me rappelle bien, 1964 et 1969, je peux me tromper d'une année, pardonnez-moi, de travailler entre 3 et 9 mois de plus avant de partir à la retraite. Alors que nous avons un âge de départ à la retraite qui est extrêmement, nettement inférieur à la moyenne européenne. Donc, si vous voulez, voilà un cas typique où vous faites des énormes économies, vous demandez juste aux gens de bosser 3 mois, 6 mois, 9 mois de plus, ça fait des économies par milliards en tendance et par dizaines de milliards si vous prolongez la courbe. La souffrance infligée n'est quand même pas énorme et vous n'attentez en rien à la politique de l'offre. Au contraire, vous la servez puisque vous avez plus de gens qui vont travailler, ce qui est précisément ce dont a besoin la politique de l'offre. Donc là, pour moi, déjà, ça, c'est une folie absolue.
Alors sur ce point précis,
je voudrais venir aussi, peut-être si vous voulez bien, mais plus tard, à la dépense publique, parce que je suis d'accord.
On va y revenir, je voudrais juste
que François... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais je pense qu'il reste des choses à faire pour diminuer la dépense de l'État.
Mais juste sur les retraites, sur la suspension de la réforme, la suspension ou le report, on ne sait pas bien encore. Votre point de vue, François Gérolf?
Oui, alors ça a l'air d'être plutôt un report de ce qu'on lit dans le premier apparemment, c'est un retard par rapport. Enfin bon, il y a une discussion en tout cas.
Bon, mais sur le fond en tout cas.
Ce que le PS a effectivement obtenu. Je me demande si encore une fois on ne met pas excessivement la société en tension, justement en cherchant à faire ses économies, parce qu'en partie c'est pour faire passer la pilule du budget qu'on accorde en fait cette concession. Bah, il va y avoir une pilule. Enfin, en tout cas, les gens s'attendent à ce qu'il y ait une pilule, a priori, de l'ordre de 30 milliards. Je vous assure que, si on prend l'exemple du doublement des franchises médicales, par exemple, je pense que c'est quelque chose qui va être très, très difficile à faire passer. Et à court terme, d'ailleurs, la réforme des retraites ne coûte pas tant, enfin, le report ne coûte pas si cher que ça. Quand on regarde juste les masses budgétaires qui sont en jeu par rapport aux 30 milliards, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Mais après, je suis d'accord avec vous.
S'accumule.
Moi, je pense qu'il faudrait mobiliser plus de travail. Je pense que la question, effectivement, je vais pas défendre le retour à la retraite à 62 ans et encore moins à 60 ans devant vous. La plupart des pays européens, c'est vrai, sont plutôt proches de 65, sont plutôt à un niveau d'âge légal qui est supérieur au nôtre, il faut le reconnaître. Donc je vais pas vous défendre le retour à la retraite à 60 ans. Mais en même temps, je pense que les gens ont l'impression qu'ils ont une vie très difficile au travail. Que la retraite, c'est un petit peu un havre de, c'est un havre, enfin voilà, c'est quelque chose qui fait rêver les gens. Et que, en rendant la vie encore plus difficile, en quelque sorte, en France au travail, vous allez augmenter les volontés des gens d'échapper justement à ce travail qui paye de moins en moins. Et qui, si on augmente les impôts encore plus sur les actifs, va payer de moins en moins de fait. Donc moi, je m'inquiète d'une augmentation, on va dire, des biais français, c'est-à-dire une taxation du travail quand même relativement élevée. Moi, je ne serais pas choqué qu'on augmente la taxation sur le capital relativement au travail, parce que je pense que le travail est très imposé en France. En tout cas, de tout ça, il va falloir discuter. Et encore une fois, ça va être que des mauvaises nouvelles, soit pour les ménages ou soit pour les entreprises.
Je poursuis, Philippe Manière, la discussion sur la réduction des dépenses et cette question des choix, des arbitrages qui président à la réduction de cette dépense, mis à part les retraites. Où est-ce que vous sabrez, pour parler vulgairement ?
Non, c'est très difficile. Je me souviens, quand j'étais journaliste, un jour, le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances avait lu un papier que j'avais écrit où je disais qu'il fallait tailler dans la dépense. Et il me dit : alors, je vous ai bien lu, est-ce que vous voulez que je commence par ne plus rembourser les béquilles ou les fauteuils roulants, etc. Donc, on peut toujours moquer, évidemment, l'objectif de diminution de la dépense. Mais en préservant l'essentiel...
Et un hôpital exsangue et des professeurs
mais bien
qui
sûr,
sont
mais bien
déjà
sûr,
très
mal
payés,
professeurs, il faudrait
et
payer plus. Bon. Mais cependant, vous avez, me semble-t-il, le grand événement en termes de dépenses publiques depuis les 30 dernières années, à mon avis, c'est l'accumulation et l'enchevêtrement de dépenses publiques à différents niveaux territoriaux. Je vais vous raconter une anecdote, on arrive à la fin de l'émission. Je croise
temps.
Un jour dans le TGV un de mes vieux amis, on avait partagé un bureau quand on était jeune, et tout jeune, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Et il me dit, j'ose pas te le dire parce que je connais un peu tes idées. Je lui dis, mais vas-y, franchement, je ne te jugerai pas. Il me dit, bah écoute, voilà, nous sommes d'une. Je ne vais pas nommer la région, mais comme tu sais, nous sommes tous les deux de cette ville qui est dans telle région où il y a 4 départements. Chaque département a une direction de la communication. Et puis la région a une direction de la communication. Eh bien, moi, je suis chargé de diriger une petite unité qui coordonne la communication de la région avec la communication des départements. Pardonnez-moi, mais là, on ne sauve pas des vies. Et j'aime beaucoup ce garçon et j'ai rigolé. Et je lui ai dit, bah, good luck, je suis heureux pour toi que tu aies ce bon job. Un job qui payait bien d'ailleurs. Mais personne ne peut défendre, je crois, ni à cette antenne, ni nulle part, qu'on a besoin, dans les 4 départements et dans la région, d'une équipe de communication et, bien sûr, ensuite, d'un coordinateur. Et si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le coût de coordination. Au bout d'un moment, c'est des dépenses proliférantes. Et ça coûte très cher.
Est-ce qu'elles sont vraiment proliférantes ? C'est toujours la question.
Mais
est-ce
bien
que
sûr,
ce ne sont pas des exemples marginaux ?
Mais et pas du tout, parce que des trucs comme ça, je ne veux pas être communication, parce qu'il se trouve que je connais un peu la communication, mais vous trouvez ça dans quasiment toutes les activités, si vous voulez. Il n'y a pas de clarté dans les compétences. Et donc, forcément, comme il y a plein d'acteurs responsables, il y a besoin de beaucoup de coordination, ce qui justifie une dépense supplémentaire. C'est, pardonnez-moi l'expression, dingo. Donc là, vous avez énormément de possibilités d'économie, je vous assure.
Je suis d'accord avec Philippe Manière sur l'objectif. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce diagnostic, qui partagent cet objectif. On peut citer, Édouard Philippe avait mis en place un comité action publique, Nicolas Sarkozy avait mis en place la réforme générale des politiques publiques. Je veux dire, c'est des gens qui avaient ce diagnostic et qui ont voulu faire en sorte justement que le millefeuille disparaisse.
Sous Emmanuel Macron, la MAP, la modernisation de l'action
exactement,
publique.
Exactement. Donc en fait,
réincarnation des présidents.
En fait, je pense que tous les administrateurs sont d'accord avec le fait de vouloir rendre des filles. Mais de fait, on n'y arrive pas. Alors après, j'ai pas de baguette magique. Malheureusement, je
Mais
n'ai
si
pas de solution.
Mais si, pardonnez-moi de vous couper. Est-ce que la solution ne réside pas justement dans le le fait de reconnaître qu'il n'existe pas de baguette magique dans ce domaine et que cela prend du temps de réformer l'État, les collectivités, et qu'il faut plus une stratégie que des grandes déclarations et de promesses de découpe.
Moi, je pense que ça prend du temps, effectivement, et c'est pas comme ça qu'on va faire 120 milliards d'économies dans les 4 prochaines années. Je pense que malheureusement, et encore une fois, comme vous l'avez dit, le gros quand même des masses des dépenses de l'État dont on parle, ce sont les fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont déjà sous-payés. Et en fait, c'est une forme de dette implicite qu'on n'a pas, parce que ça risque d'exploser un jour. Et par ailleurs, il y a quand même du coup une détérioration du niveau éducatif des élèves. Et ça, c'est tout à fait inquiétant pour le futur.
C'est catastrophique.
Voilà,
on ne devrait, à mon avis, ne parler que de ça.
Voilà.
C'est tout le reste est du second ordre.
Exactement. Mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas.
On n'a pas d'argent pour ça, parce qu'on fait des tas de choses qui sont absolument secondaires et qu'on pourrait ne pas faire ou faire à moins de coûts, ça j'en suis convaincu.
On n'a pas d'argent et on va empirer cette situation parce que le point d'indice va continuer à être gelé, parce qu'on va avoir de plus en plus de mal à recruter des professeurs, c'est déjà le cas d'ailleurs.
Ouais.
Et tout ça, c'est en fait très inquiétant pour l'avenir. Et donc je me demande si on a raison de se focaliser encore une fois. Alors là, évidemment, on parle du budget. Donc comme vous l'avez dit, le budget, c'est principe, on vote des masses. Mais même quand on vote les masses, on ne vise que le déficit. Et moi, je pense qu'on devrait se dire... Est-ce que vraiment c'est une bonne idée de paupériser les enseignants à ce point-là ? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire on est en train de privatiser à bas bruit, en gros, le système de santé, puisque l'hôpital public fonctionne de moins en moins bien et que les gens qui ont les moyens et qui ont cette chance de pouvoir le faire peuvent recourir à des cliniques privées ? Et donc, il y a quand même une question, moi, je pense, sur tout ça. On devrait avoir un débat sur toutes ces questions à l'occasion du budget. Or, c'est des choses qui sont faites à bas bruit. C'est une politique qui est menée, en gros, depuis au moins 10 ans, voire en fait même beaucoup plus que ça. Et à mon avis, ça ne va pas dans la bonne direction.
Je reviens un instant sur l'idée de justice fiscale portée par certains députés de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. A été discutée durant ces derniers jours la taxe dite Zucman, la question aussi de la taxation d'une partie des revenus liés au holding. Philippe Manière, comment aborder cette question au cœur des débats depuis plusieurs semaines désormais, sans qu'on y voit tellement clair sur la forme que pourrait prendre effectivement, j'allais dire, un projet de loi sur ce sujet, un texte de loi ?
Non, mais enfin, moi, je pense que la taxe Zucman, elle est morte. D'ailleurs, ses défenseurs ne se font plus beaucoup d'illusions. En revanche, elle a installé l'idée qu'on pouvait, revenir à une taxation plus forte du patrimoine, qui, à mon avis, est une mauvaise idée. Mais cette idée, je crois, a plus ou moins triomphé au fil des 3-4 derniers mois de débat. Et moi, mon pronostic, c'est qu'on reviendra à une sorte d'ISF avec exonération de l'outil de travail, ce qui est absolument essentiel, surtout qu'on exonère l'outil de travail et qu'on l'exonère dans des conditions satisfaisantes. C'est, on dira, si vous voulez, la France a cette particularité d'avoir toujours des idées que pourtant son expérience devrait l'amener à ne pas avoir parce qu'on l'a fait avant et que ça n'a pas marché. L'ISF, je suis intarissable, donc je ne vais pas le faire trop longtemps, mais le nombre de bêtises que j'ai vu faire dans les entreprises au titre de l'ISF, vous n'imaginez pas.
C'est par exemple
des ETI qui... D'abord, vous avez des gens qui vendent leurs ETI pour partir à l'étranger pour plus payer l'ISF.
Les ETI sont des entreprises
de taille intermédiaire. Moi, vous avez aussi cette espèce de dispositif, vous vous souvenez peut-être qu'à condition d'avoir une responsabilité hiérarchique dans l'entreprise, à condition d'avoir plus de 25%, vous échappez à l'ISF. Alors donc, on mettait le cousin Gontran, qui était parfaitement incompétent au DRH, pour être bien sûr qu'il ne paye pas. Bon, ça, évidemment, vous imaginez le résultat 10 ans après. Autre chose, vous avez la cousine Germaine qui, elle, n'a que 5%, donc elle ne pouvait pas échapper même si on lui donnait un job. Donc, on échappait à la cousine Germaine, à la comptabilité. Mais, en revanche, il fallait payer beaucoup plus de dividendes pour que la cousine Germaine puisse payer l'ISF. Devinez quoi ? Plus de dividendes sortis, ça fait moins d'investissements. Vous aviez aussi les gens qui restaient très longtemps à la tête de leur entreprise, parce que tant qu'ils étaient à la tête de l'entreprise, ils étaient exonérés, alors que s'ils vendaient, ils n'étaient plus exonérés. Donc vous avez des gens de 85 ans qui restaient présidents, vous imaginez le dynamisme de la boîte. Donc si vous voulez, des pertes de chance et des éléments de sous-optimum pour l'économie française, et ça se chiffre ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de boîtes qui sont parties ou qui sont parties au tapis pour cette raison. C'est considérable. On l'a vu le résultat, donc il ne faut surtout pas refaire la même bêtise. Mais ça, on est parti pour la gloire. Les holdings, on y reviendra peut-être plus tard, c'est un autre sujet. Là, pour moi, c'est un sujet, comment dire, intellectuel et moral, c'est-à-dire taxer un revenu qui n'a pas été appréhendé. Pour moi, c'est absolument indéfendable et incompréhensible.
On va revenir sur les holdings, mais est-ce que vous en voulez autant, François Girolf, à Gontran et à la cousine Germaine?
Oui, je trouve que si on aboutit à des situations ubuesques comme celle qui est décrite, effectivement,
non, mais plus sérieusement,
pour...
la taxation du patrimoine, est-ce que justement il faut revenir sur cette idée-là?
Moi, contrairement à Philippe Manière, je serais pas embêté par un retour de l'ISF ancienne formule. En revanche, comme j'ai déjà dit, effectivement, j'ai plus des réserves par rapport à la taxation de l'outil professionnel pour les mêmes raisons. Je pense qu'il y avait des bonnes raisons pour lesquelles on a exonéré l'actif professionnel dans l'ISF au départ et qu'il faudrait pas en tout cas trop le taxer. Enfin, en tout cas, si on mettait une taxe Zucman, je la verrais plutôt à 0,5%.
C'est déjà
maximum
beaucoup,
hein. Et ce qui voilà, donc je vois pas ça comme un instrument de revenu.
Vous ne défendez pas vous-même l'idée d'une taxe Zucman à 2% à comme Gabriel
2% ça me paraît vraiment beaucoup,
c'est-à-dire que très considérable.
2% c'est beaucoup,
c'est pas du revenu, c'est 2%
du patrimoine.
Ces défenseurs disent que c'est absolument j'allais dire
le minimum
ouais. En l'occurrence hein.
Bah oui, non, là j'ai un désaccord.
Trouvez-moi
très fort.
Trouvez-moi un pays qui fait ça et on en reparlera parce que faut pas oublier non plus que les gens sont mobiles. C'est 2% c'est délirant, c'est punitif à un point dont on n'a pas idée. Et aucun pays au monde, il y a très peu de pays qui taxent le patrimoine, a fortiori, il y en a très peu qui taxent le patrimoine professionnel, et ceux qui le font à des taux qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont extrêmement inférieurs.
L'un des arguments principaux opposés à cela, 15 fois inférieurs. Que ces défenseurs opposent, c'est de dire que les patrimoines ont augmenté d'une manière considérable en quelques années, voire même de 500%.
Pas tous, par rapport à ça, c'est vrai que le rendement, quand vous regardez a posteriori, vous pouvez dire effectivement depuis 95, le rendement moyen sur le CAC 40, c'est à peu près 8% par an. Et donc, vous dites 2%, c'est seulement un quart de ça. Mmh. Donc, est-ce que c'est tant que ça? Mais déjà, premièrement, vous pourriez faire le même raisonnement sur le marché immobilier à Paris. Oui. En fait, vous avez eu 8%. Et aujourd'hui, les rendements locatifs, du coup, à Paris, la conséquence, c'est qu'ils sont très faibles. De l'ordre de 2%, peut-être même inférieur à 2%. C'est la même chose, en fait, sur les dividendes de LVMH. C'est-à-dire les rendements aujourd'hui de dividendes sur une entreprise comme LVMH. Sont entre 2 et 4 selon les années, et donc il y a effectivement, je pense que le 2% ça reviendrait exproprier de fait presque l'intégralité de ses dividendes. C'est comme si on expropriait un propriétaire de l'intégralité des loyers en pariant sur les gains en capital qui continueraient. Je pense que rien n'est garanti. Et donc, à mon avis, 2%, c'est effectivement énorme.
Comme il nous reste 2 minutes, vous avez 1 minute chacun sur les holdings. Vous aviez commencé, Philippe Manière, je vous laisse poursuivre.
Non, les holdings, si vous voulez, c'est quoi les holdings? C'est-à-dire, au lieu d'avoir directement des actions de mon entreprise, j'ai une holding, c'est-à-dire une société transparente, dans laquelle je mets les actions de mon entreprise. Bon, quel est le bénéfice? C'est-à-dire que les dividendes sont payés non pas à moi, mais à la holding. Autrement dit, je ne les ai pas, moi. Mm-hmm. Mais avec ces dividendes et avec le fruit éventuel de la cession de ma boîte un jour, je peux investir dans des start-up, dans d'autres entreprises, etc. En tout cas, je n'utilise pas cet argent, puisque pour pouvoir l'utiliser, il faudrait que je sorte l'argent de la holding, qui est une sorte de tirelire, et là, je serais taxé. Donc, tant que je ne sors pas cet argent, c'est plutôt bien que je puisse en avoir l'allocation que je souhaite pour pouvoir soutenir l'investissement, développer, faire des choix alternatifs, etc., diversifier mon portefeuille et puis investir dans l'économie. Et en tout cas, c'est pas de l'argent qui est à moi. Si jamais un jour j'ai gagné beaucoup d'argent, ou d'ailleurs que j'en ai perdu, peu importe, mais que je veux sortir ce qui reste dans la tirelire, là je paye l'impôt. Donc ça, c'est normal. L'idée de taxer un argent qui n'a pas été appréhendé me semble incompréhensible, personnellement. Elle est totalement attentatoire à tous nos canons du droit, d'ailleurs.
François Gérard. Après, c'est vrai que c'est quand même un avantage fiscal qui est disponible uniquement pour les ultra-riches, puisque moi, quand je touche des dividendes de LVMH, je suis imposé directement, alors que quand Bernard Arnault touche dans sa holding, il n'est pas imposé.
Mais vous pouvez faire une holding,
François.
Même si je ne
l'utilise pas.
C'est pas réservé à Bernard Arnault.
C'est un petit peu cher pour moi.
Non, mais c'est...
Effectivement. Donc je pense que il y a aussi une autre question sur les holdings, c'est que c'est vrai que les holdings servent à acheter des yachts, des chalets.
Ça, il faut corriger.
Oui. Il faudrait au moins interdire le fait d'utiliser des biens d'usage, par exemple, d'avoir des biens d'usage dans les holdings. Et ça c'est pas fait aujourd'hui.
D'accord.
Donc, effectivement, les holdings sont utilisés quand même comme un instrument d'optimisation fiscale. Et donc, ça ne me choque pas qu'on soit plus dur sur cet aspect-là, d'une manière ou d'une autre.
Eh bien, on suivra la discussion véritable quant au budget 2026.
Malheureusement, c'est pas nous.
Malheureusement, c'est pas vous, mais qui commencera demain dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je vous remercie en tout cas d'avoir poursuivi, ouvert ce débat à l'un et l'autre. François Gérol, vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et professeur associé à Sciences Po Paris. Face à vous, Philippe Manière, essayiste, président de la société de conseil Vaisolis Communication. Merci également à celles et ceux qui ont pensé, préparé cette émission. À suivre après le journal, pourquoi la France est-elle intervenue pour exfiltrer l'ancien président malgache ?